Donc salut Tom et Jerry.
Oui, bonjour.
Je voulais voir avec toi parce que je t'ai vu donc sur le stand de Amstrad, et donc tu m'as dit que tu connaissais pas mal cette machine. Donc si tu pouvais présenter, parce que ça fait depuis plusieurs années que tu travailles dessus.
Ça fait plusieurs années que je viens aux conventions à l'AC et puis à l'RGC, toujours un petit peu en mode touriste, mais bon. L'Amstrad, c'est une machine que je connais effectivement bien, parce qu'en fait j'en fais depuis une trentaine d'années à peu près. Donc c'est mon deuxième ordinateur après un Philips VG5000.
D'accord. Donc et ça c'était en quelle année
Alors l'Amstrad en fait c'est une famille d'ordinateurs anglais qui est sortie à partir de fin 1984, on va dire septembre 84. Donc il y a eu plusieurs modèles. Il y a eu d'abord l'Amstrad 464 qui est le plus répandu, je sais pas, mais enfin c'est vraiment le premier. C'est le modèle avec un lecteur de cassette.
C'est ce que je vais te demander, parce que on en parlait avant de commencer.
Et après, il y a eu comme la machine, c'est quand même plutôt a eu beaucoup de succès, c'est bien vendu. Il y a eu rapidement des évolutions avec des modèles à lecteur de disquette. Donc d'abord le 664. Qui a été très rapidement remplacé par le 6128, qui a été vraiment aussi le gros succès de la famille. Ce modèle-là, il s'est vendu avec le 464 jusqu'à début des années 90, où ils ont été remplacés par le 6128 Plus et le 464 Plus. Donc ils sont des versions, on va dire, évoluées de la première machine, avec des ports cartouches. En fait, c'est sorti en même temps qu'une console Amstrad qui était la GX4000, qui n'a pas du tout fonctionné. Et en gros, c'est le même hardware, c'est-à-dire on retrouve un CPC de base dedans, le hardware du CPC, avec une puce supplémentaire qui s'appelle la ZIC, et qui permettait de faire des scrolling câblés, d'avoir une palette de couleurs plus importante. Et puis un certain nombre d'autres fonctionnalités, des sprites hardware par exemple, des choses comme ça, quoi. Et bon, ça n'a pas vraiment bien marché, parce qu'en gros, la date de sortie de la machine, c'est relativement... C'était déjà une époque où les 8 bits, ça se vendait beaucoup moins, voire plus.
C'était un peu retard.
Et techniquement, déjà, ils l'ont vendu pour moi trop cher. Et il n'y a pas... Comme ça, c'est pas forcément très bien vendu, c'est le coup classique. Les éditeurs annulent des jeux, il n'y a plus de jeux, donc les gens n'achètent plus, quoi.
Oui.
Donc à partir de là,
la
machine en elle-même n'était pas nulle. Il y a quelques démos qui sont sorties il n'y a pas très longtemps sur du CPC Plus qui montrent vraiment que ça en a un petit peu sous le capot, mais c'était pas aussi facile que ça à utiliser. Ils avaient déjà fait une erreur, c'était de pas proposer un basique qui permettait d'utiliser des fonctionnalités supplémentaires. Et puis à l'époque, les gens ils voulaient plus des CPC, quoi. Ils voulaient des Amiga, des Atari, et au niveau prix, il n'y avait plus une très si grosse différence que ça, quoi.
Et donc, ça a toujours été Amstrad 8 bits
ou... Oui.
D'accord.
Alors, le CPC, en fait, pour résumer ce que c'est une machine qui est relativement classique, on va dire. On va retrouver dedans un processeur bien connu qui est le Z80. Un des avantages de la machine à l'époque, c'est qu'il y avait 64 kg de mémoire nativement. Un basique de très bonne qualité pour l'époque, qui était le locomotive basique. Donc, qui ressemblait beaucoup d'ailleurs à un basique d'un ordinateur anglais qui s'appelle l'Acorn BBC. Il y en a certains qui disent que c'est très fortement pompé, on va dire. Ce qui n'est pas totalement faux. Il y a quelques différences, mais c'est vrai que quand on commence à regarder, on se dit, tiens, finalement, ils s'en sont quand même pas mal inspirés. Alors l'Acorn, c'est pas le même processeur, je crois que c'est un 6502. Là, c'est un Z80, mais après, bon, au niveau... le langage lui-même est quand même assez proche, finalement. Au niveau vidéo, y a un contrôleur vidéo qui est assez classique, qu'on va retrouver aussi sur les premiers PC, un 6845 je crois. Et la particularité de la machine, c'est qu'il y a une puce spécialisée qui s'appelle un gate array, et qui gère en fait un certain nombre de fonctionnalités. Alors je sais plus si c'est le synchro vidéo, clavier, des choses comme ça, et qui ont permis notamment de réduire les coûts de production, quoi. Donc la machine en elle-même, c'est quelque chose, c'est pas un ordinateur qui est super puissant, c'est pas une tuerie comme ce que pouvait être par exemple l'Enterprise, quand c'est ce que ça a été annoncé tout du moins, mais c'était une machine qui avait pas de gros défauts, et qui avait aussi un énorme avantage, c'est qu'au niveau marketing, ils l'ont vendu en tout en un. C'est-à-dire que l'Amstrad, quand t'achetais un Amstrad CPC, t'avais la machine, t'avais l'écran, donc c'était déjà pas courant à cette époque-là, et t'avais un support de masse. Donc il y avait lecteur de cassette au début, après lecteur de disquette.
Parce que si on prend les concurrents en fait, de l'époque...
Ah bah les concurrents, pour le même prix, l'Amstrad, il est sorti, moi ce que j'appelle ça l'année de la mort, c'est 1984, et c'est une année où il y a énormément d'ordinateurs familiaux qui sont sortis.
Ah oui, donc c'est pas là-bas où il y a trop de... Ouais,
d'accord. Si, mais en gros, il y a eu beaucoup de trucs qui sont sortis, l'Amstrad est sorti, en gros c'est lui qui a raflé la mise. Quoi. C'est-à-dire que... En 84, il y a eu des nouveaux Sinclair qui sont sortis, il y a eu le Thomson MO5 qui est sorti, il y a eu des ordinateurs d'initiation comme le VG5000 ou des Matra Alice, des trucs comme ça en version améliorée. En parallèle de ça, il y a Commodore qui a sorti un petit peu après, donc ça c'était déjà plus 85, le C128. Enfin, il y a eu beaucoup de machines à cette époque-là, des micros anglais dont on ne connaît même plus le nom maintenant. Hein. Et en gros, en 84, ça a été vraiment l'année où tout est arrivé. 85, ça a commencé déjà à s'écrémer. Il y a eu les MSX aussi qui sont arrivés, théoriquement, à cette période-là. Ils sont arrivés un petit peu après, mais bon, ils sont arrivés un peu trop tard, quoi, du coup. Et fin 85, c'était limite plié. Déjà, tu avais l'Amstrad, tu avais le Commodore 64 qui résistait parce que déjà la machine, techniquement, était quand même bien. Elle était plus ancienne, donc il y avait déjà un parc. Il y avait les Thomson. Grâce au plan informatique pour tous, où finalement les gens achetaient des MO5 parce qu'il y en avait dans les écoles, puis après des TO8, des choses comme ça, des TO770. Et puis à côté 8 bits, il y avait un peu de Spectrum, mais typiquement une machine qui s'était super vendue entre fin 83 et mi-84, qui était le RIC par exemple, dès que l'Amstrad il est sorti, ça lui a vraiment taillé des coupières. Quoi.
D'accord, il a fait...
Parce que le RIC c'était sympa, mais il y avait quand même un certain nombre de défauts, et la machine surtout elle était vendue toute nue, quoi. Donc il fallait acheter le lecteur de cassette avec pas d'écran. Après ils se sont tous mis rapidement à faire des bundles avec un écran, un clavier, mais au final, t'avais pour le même prix, t'avais une machine qui était limite moins bien quand même que l'Amstrad. Et surtout, c'est ça qui a fait la différence aussi, c'est que les développeurs ils sont partis sur l'Amstrad bille en tête dès qu'ils ont vu que ça marchait. Quoi.
Ah, donc ça, c'est sûr.
Il y a plein de développeurs au RIC, alors des Français notamment, qui ont commencé par adapter tout ce qu'ils avaient fait en RIC sur Amstrad, et après ils ont fait que des jeux Amstrad. Quoi. Et donc le CPC, en gros, c'était à l'époque la machine en France, tout du moins, qu'il fallait acheter en 85-86. Quoi.
Oui, parce que moi j'en parlais, faire un petit peu qu'on se voit, c'est vrai que moi j'ai eu le souvenir comme ça de lancer le jeu sur la cassette audio et c'était sur un Amstrad.
Ouais. Et en plus, alors il y avait un gros avantage, c'est que le lecteur de cassette, il était fiable.
Ah, parce qu'il y a ça aussi, c'est les autres constructeurs, ils avaient des lecteurs audio pas fiables.
Le lecteur ou l'ordinateur qui avait un petit peu de mal, mais oui, le RIC par exemple avait une assez mauvaise réputation de ce point de vue-là. Quoi. Commodore, les autres, non, ça allait... Ça allait à peu près. Hein. Tu avais aussi les Atari XL800 qui étaient sortis en 84 par exemple, quoi, et qui ne sont pas restés très très longtemps. Donc,
Mais ceux-là, ils étaient à cassette aussi?
Oui. Ou... En fait, à cette époque-là, le lecteur de disquette, c'était du luxe. C'est-à-dire quand tu achetais un lecteur de disquette, déjà, il y avait plein de machines où il n'y en avait pas. C'était souvent annoncé, ça ne sortait pas. D'accord. Et quand ça sortait, ça valait le prix de la machine, voire le double. Oui,
donc c'était prohibitif.
Quoi. Et justement, le 6128 et le 664, plutôt le 6128 a bien marché. Parce que pareil, pour les prix de la machine, tu avais le lecteur gratuit par rapport aux autres. Quoi. Donc, c'est pareil, après ça a baissé, mais il y a certaines marques, le lecteur, ça valait 3000 francs, 4000 francs. Quoi.
Oui,
donc ça a commencé à chiffrer prix, sérieusement.
Demeure, c'était le prix d'une machine
Largement plus. Ouais.
Oui, largement plus.
Les micros, quand il y avait vraiment eu de la concurrence, les premiers prix, les trucs d'initiation, c'était entre 1500 et 2000 francs, on va dire. Les micros un peu plus sérieux, entre guillemets, c'est-à-dire plus de mémoire, un basique plus évolué, des ports d'extension plus importants, ça tournait autour de 3000, 4000 francs. Quoi. Et le CPC, à 3000 francs, tu avais un 464 écran monochrome complet. Quoi.
Ah oui.
Et puis à 4000, tu avais l'écran en couleur. Quoi. Donc, ça a quand même fait mal. Quoi. Et au niveau prix des jeux, globalement, c'était à peu près les mêmes tarifs que les autres. Quoi. C'était pas forcément très cher, mais pas forcément bon marché non plus. Hein. Notamment les jeux français qui ont toujours été plus chers que les jeux importés. Je sais pas trop pourquoi. Mais,
oui, c'est pas logique.
Non.
les jeux
anglais, typiquement, tout ce qui était importé par VS Golem, ça valait autour de. Enfin, dans les années 86-87, il est vendu autour de... Les disquettes, c'était 140 francs à peu près, 130-140. Les jeux français, c'était 180. Et puis, dès que c'était un jeu d'aventure, ça tapait vers les 220-250, quoi.
Ah oui, donc on est proche d'un... Oui, c'était pas donné. En
fait. Après, les jeux anglais, c'était souvent des jeux d'arcade. Donc, bon, c'était pas forcément le même public visé, déjà. Et puis, peut-être le même temps de développement aussi. Hein. Les jeux d'aventure... Peut-être que c'était un peu plus loin à développer, quoi, que je ne suis pas hyper convaincu, mais bon.
Mais par contre, pour revenir à ce que tu disais au début, donc les premiers Amstrad, est-ce qu'ils avaient... Enfin, il y avait la couleur ?
Oui.
D'accord.
Dès le départ, ils ont sorti des modèles monochromes, donc avec des fameux écrans verts, et puis il y avait tout de suite des modèles couleurs.
D'accord.
Et ça, c'était aussi un souhait de la société, hein. Et Amstrad, à la base, c'est pareil, c'est une société un peu opportuniste, hein. Historiquement, des micros, ils n'en faisaient pas, hein. Quand ils ont lancé le CPC, c'était vraiment le premier ordinateur qu'ils vendaient, quoi.
Parce qu'en fait, à la base, oui, Amstrad, c'est...
Amstrad, ils ont surtout fait... Ils étaient connus pour des Chanifi...
C'est vraiment
avec,
ça.
Ouais.
C'est même un peu comme si Pioneer avait fait un ordinateur.
Voilà, mais Pioneer bas de gamme. C'est-à-dire que le concept Amstrad, c'était le produit tout en un, moins cher que les autres.
Oui.
Pas forcément le meilleur, mais quelque chose de suffisamment, on va dire, efficace pour que les gens l'achètent et en soient satisfaits, quoi. Et donc Amstrad, effectivement, dans les 70-80, c'était effectivement c'était de la chenille.
Ah oui, d'accord. Donc c'est vraiment ça leur métier, entre guillemets, de
au
base.
Au départ, c'était ça, ouais.
C'était ça, chenille, d'accord.
Et après le CPC, ils ont remonté, enfin ils ont fait, en parallèle de la gamme CPC, ils ont fait des PC, les fameux PC 1512, 1640, etc. Ils avaient une gamme d'ordinateurs... Alors, professionnels, oui, on va appeler ça comme ça, qui étaient les PCW, qui étaient basés aussi sur des Z80. Donc technologie 8 bits, alors c'était un CPC, un petit peu différent quand même, mais la logique de base est la même, quoi. Et ça a duré comme ça jusqu'au début des années 90, on va dire, 92-93, où là, ils se sont fait emporter par la vague des clones compatibles, machin. Où... L'avantage qu'ils avaient en termes de prix à cette époque-là sur les PC, ils ne l'avaient plus, quoi.
Ah oui, donc après
donc, finalement. Ils ont eu des soucis apparemment avec des séries où il y a beaucoup de taux de retour sur des disques durs défectueux, des trucs comme ça. Ouais. Ils ont, je pense, aussi arrêté parce qu'ils ont senti que finalement, ils dominaient plus sur le marché. Donc, de toute façon, donc, c'était plus un marché intéressant. Coup, et ils sont partis sur autre chose. Ils ont fait des fax.
Ah oui,
ils ont fait un truc un peu bizarre. Ils ont fait un truc qui était une espèce de téléphone, visio, machin. Qui s'appelle l'emailer, et ils ont fait beaucoup d'antennes satellites, de trucs comme ça, quoi. En fait, ils suivaient pas mal le marché anglais dans ce que les gens achetaient. Et maintenant, Amstrad, ça existe toujours, même si la marque, elle appartient plus au PDG de l'époque.
Ça a été racheté, en fait
Il n'y a pas très longtemps, ouais, je crois. Ouais. Alors après, j'avoue que je ne suis pas trop bien, mais je ne sais plus exactement ce qu'ils font maintenant. Je sais que la marque, alors, en Italie notamment, ils vendent des produits style... des machines à faire, enfin des friteuses, des trucs, enfin,
ah oui,
des trucs
donc,
un
oui,
peu bizarres, quoi.
Oui.
C'est plus du tout la même chose.
Plus du tout le même, d'accord.
Du petit électroménager, oui. On va dire. Et en Angleterre, là j'avoue que je sais pas trop ce qu'ils font maintenant, hein, mais la marque existe toujours par contre.
Et par contre, pour revenir à ce que tu dis, parce que là moi je savais pas ça, donc c'était vraiment là, le métier de base, tout ce qui était hi-fi.
Ouais.
Donc ça veut dire que normalement sur l'Amstrad, le son était.
Non. En fait, ils sont venus sur le micro parce que ils se sont rendus compte que c'était un marché porteur et que finalement, construire des chenifi, construire des micros au niveau électronique, c'est pas exactement la même chose quand même. Mais ils avaient déjà des process de conception, de fabrication qui pour eux leur permettaient assez facilement de créer un ordinateur.
D'accord.
Et le micro, au départ, il a été créé un peu de toutes pièces par des mecs qui n'étaient pas de chez Amstrad. Hein. Ils ont rapporté des gens.
C'est un peu de brick and broc.
Ouais. Et c'est assez rigolo d'ailleurs parce qu'au départ, le hardware tel qu'on le connaît maintenant, c'est pas du tout ça qui était prévu, quoi.
Ah ouais, donc c'est.
En fait, ils avaient confié la conception de la carte mère à deux ingénieurs. Ils étaient partis plus sur la même chose que ce qu'on a sur un C64 ou. Un Atari 8-bit, donc un 6502. Et en fait, les deux des ingénieurs, ils s'en sortaient pas vraiment, quoi. Ils n'arrivaient pas à concevoir la machine. Et à tel point qu'à un moment, ils se sont barrés, quoi. C'est-à-dire qu'ils donnaient plus de signes de vie.
Ils ont lâché la
de vie, ils s'en sauvaient. Enfin bon, il y a plusieurs bouquins qui parlent de l'histoire d'Amstrad, et c'est ça. Et donc, le fait qu'on soit retrouvé avec un Z80 locomotive basique, c'est lié au fait que ces deux gars n'ont pas réussi à faire ce qu'ils voulaient. Et à la limite, la machine telle qu'elle était prévue était moins intéressante que ce qu'ont fait d'autres personnes qui sont arrivées dans le projet après. Ils sont arrivés, en fait, il y avait déjà la coque de la machine, l'extérieur, l'écran, tout était prêt. Il n'y avait plus qu'à trouver une carte mère dedans. Et là, ils sont, enfin, ils ont du bol, ils sont tombés sur des mecs qui, pour le coup, maîtrisaient pas mal, qui avaient déjà bricolé des micros. Et donc, au final, la machine, bien qu'elle ait été faite sur un laps de temps vraiment assez court, elle est plutôt bien foutue.
Oui, parce qu'en fait, la conception, si on repart du début, quand ils ont lancé, c'était quoi, un an ou pour la machine ou
pas? Ah non, le moment, entre le moment où ils ont dit, tiens, on va faire un micro et au moment où on va le lancer, ouais, peut-être un peu plus,
un
je
peu
pense.
Plus
que,
ouais.
Je pense qu'ils ont dû décider en 83 à peu près de se dire, tiens, ça a marché, ça commence à fonctionner. Bah, en fait, je pense qu'ils ont été poussés par le succès de Sinclair, hein, tout bêtement, où ils ont fait les 1080, alors je pense que c'est peut-être 82 ou un truc comme ça. Et là, ils ont dit, bah tiens, il y a un marché, quoi.
D'accord.
Et il y a un certain nombre de micros anglais qui sont arrivés 82, 83. Il y a les accords, notamment les BBC. Il y a un constructeur qui s'appelle Dragon aussi, qui a sorti un clone d'un Tandy Color Computer qui a pas trop mal marché en Angleterre, qui a été vendu après en France aussi. Donc je pense que là, ils se sont dit, il y a un marché à prendre et. Et je pense qu'ils sont pas les seuls à se dire ça, parce que c'est pour ça qu'en 84, on s'est retrouvé avec de machines. J'ai pas cité les micros japonais, il y avait des Sanyo qui étaient arrivés aussi, des PHE, pas des MSX, mais tu avais les Sharp MZ, enfin, il y avait déjà des micros japonais qui arrivaient plus ou moins en compte-goutte, mais qui existaient, quoi. Et, enfin bon, quand tu fais le total du nombre de machines lancées à cette époque-là, c'est hallucinant, quoi. Le petit micro qu'a ramené Eric, là, l'Aquarius, je pense que c'est aussi sorti en 84, enfin, du moins en Europe, hein, c'est peut-être sorti un petit peu avant, mais c'était assez impressionnant, quoi.
Et par contre, pour toi, donc, sur Amstrad, le meilleur jeu auquel t'es joué,
Alors ça, c'est une question, je vais dire, c'est une question bidon, parce que le jeu, déjà, ça dépend de tes goûts, quoi, d'ailleurs, mais globalement.
T'as passé le plus de temps qui t'a vraiment accroché
Le premier jeu, enfin, j'ai eu de la chance, entre guillemets, parce qu'à l'époque, les jeux, bon, des fois, tu les achetais un peu au pif, hein, tu vois, la jaquette, ouais, putain, ça a l'air bien. Je lisais quand même des revues style Tilt ou les Amstrad Magazine, et les premiers jeux que j'ai achetés, en fait, c'est deux jeux qui sont vraiment très bien. J'avais déjà un jeu alors purement Amstrad qui s'appelle Krafton Exunk de chez R Informatique qui avait été fait par Rémi Herbulot. Et là, le truc, c'est une grosse tuerie, quoi. Ça, c'est un jeu impressionnant. C'est un jeu en 3D isométrique. D'accord. En fait, tu te balades avec t'as un personnage qui est accompagné d'une espèce de petit, ce qu'il appelle un podocéphale, donc une espèce de truc à pattes qui sert à pas grand chose dans le jeu, mais qui fait du bruit, qui te tourne autour. Et le but, en fait, c'est d'explorer un centre. C'est pas un centre informatique, un centre de recherche, je crois, pour trouver des savants et les faire parler. Et tu les fais parler en trouvant un objet qui a une seringue, donc qui est planqué évidemment dans le jeu, quoi. Et à la fin du jeu, une fois que tu as réussi à reconstituer un code, tu vas te balader pour arrêter un ordinateur, enfin le truc classique, quoi. Mais le jeu est vraiment très très bien fait, il est rapide, il exploite bien le graphisme de l'Amstrad, qui est. Alors ça, j'en ai pas parlé, mais c'est une de ses particularités. Il a trois modes graphiques avec un nombre de couleurs plus ou moins important. Donc il y a un mode 0 qui est relativement grossier au niveau résolution, mais où on a 16 couleurs en simultané, ce qui était déjà pas forcément courant même à cette époque-là. Il y a un mode 1, donc c'est le mode intermédiaire, 4 couleurs, 320 sur 200, donc assez fin. Et bon. Et il y a un mode 2, donc un mode 80 colonnes monochrome, ce qui n'était pas non plus donné à l'époque pour la majorité des machines, quoi. Les Commodore 64, les premiers MSX, par exemple, c'était 40 colonnes, quoi. Donc, il fallait attendre la génération d'après pour avoir les 80 colonnes. Alors que le 464, il y avait déjà ça.
Il y avait une avancée par rapport à d'autres, quoi.
Oui. Après, l'autre avantage, on va dire, c'est que les couleurs sont assez flashy, finalement. Et contrairement aux autres machines où il y avait des couleurs un petit peu délavées, souvent pastel, là, ça pétait bien au niveau des couleurs. Et donc, il y a des jeux avec graphiquement qui sont vraiment très, très jolis, quoi, pour ça. Et donc, autre jeu qui m'avait marqué, moi, à l'époque, c'était un jeu qui, pour le coup, était un portage de Spectrum, qui s'appelle I1 Counter. Donc c'est aussi un jeu en 3D isométrique où là, en fait, on balade sur une espèce d'autoroute des petits robots qui poussent une espèce de pyramide. Et évidemment, ils se font tirer dessus. Il y a des adversaires qui foncent dessus. Et franchement, celui-là, il est aussi très bien fait. Là, même si, à la limite, il est moins spécifique en termes de technique que le Krafton X5 ou le Krafton, il a été porté que sur, il a été porté sur Atari, je crois, après, sur 16 bits. Et il a été fait aussi sur MSX2 par des Japonais, mais tu le trouves sur aucune autre machine 8 bits, quoi.